J'ai des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Et c'est en me faisant cette réflexion que parallèlement, je repensais à ma mère, à mes grands-mères, à ces figures de femmes que j'avais sous les yeux tous les jours, celles qui m'entourent, qui m'ont bercée en me contant leur vie. C'est en songeant à leurs combats, leurs envies, leurs idées, leurs projets, que je me suis dit que de nombreuses femmes de nos territoires devaient être mises en valeur. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et j'aimerais vous les présenter. Bienvenue chez les femmes de chez moi. Les femmes de chez moi, mini format avec une invitée qui aujourd'hui vient de loin, de très loin, même plus loin encore que Marie Chabin et sa région parisienne, plus loin que Salima Sensou et ses paysages marocains, plus loin qu'Aza Sawa Afara et sa Syrie natale, puisque Flavia Coelho a rejoint notre continent en quittant le Brésil qu'il a vu grandir. C'est à l'occasion de sa venue au Café Musique que nous avons pu échanger quelques mots autour de l'art, de la culture ici et là-bas, du racisme et de l'homophobie ambiante, et de la condition des femmes. Pas de rituel sonore aujourd'hui, on entre directement dans le vif du sujet. Bonjour Flavia Coelho.
Voilà.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes une artiste brésilienne. Alors j'aimerais pour commencer peut-être qu'on parle un petit peu de la situation justement de l'art au Brésil.
Alors celle du jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a malheureusement, il y a l'institution du ministère de la Culture. Qui c'était quand même un bac pour c'était quand même compliqué pour tout ce qui est subvention pour des sujets qui sont importants qui doivent être parlés dont l'homophobie, le racisme, les minorités sociales, parler des histoires voilà de sur l'histoire du pays. Donc il y a eu beaucoup de subventions qui ont été coupées par rapport à faire la création pour ce genre de sujets, ce qui est très critique. Par contre, il y a quand même un grand nombre d'artistes et de musiciens qui sont en train de faire des choses sublimes pour parler de l'actualité, pour défendre leurs causes, leurs droits, etc. Il y a un mouvement, quoi. Il y a les anti et il y a ceux qui sont là pour faire la différence.
Et si on dit que l'art est le reflet un petit peu de la politique d'un pays, est-ce que ça vaut pour le Brésil aussi aujourd'hui ?
Bien sûr que ça vaut pour le Brésil, parce que je pense que si on parle musique, on parle souvent des morceaux, des pop musique par exemple. Je ne veux pas parler que du Brésil, hein, c'est un truc général. On parle de niveau de la décadence des paroles. On dit souvent, voilà, les paroles sont de moins en moins engagées, sont de plus en plus bateaux. Et donc pourquoi ça? Parce qu'il y a quand même une tendance, je crois, qui... Moins les gens ils réfléchissent, mieux c'est pour... C'est-à-dire quand on fait de la musique comme ça, où les gens ils doivent moins réfléchir, ils doivent moins penser, se poser des questions, ils interfèrent moins dans leur vie sociale, politique. Ça, c'est ma vision des choses. Je pense que quand on écrit des choses qui font les gens réfléchir, qui font les gens penser, qui font, voilà, que ça donne aux gens de faire des choses pour l'autre, la culture joue son rôle. La culture joue son rôle quand les artistes chantent ce qui ne va pas, ou aussi quand ils mettent en valeur ce qui va. Je pense que la musique, la culture, elle est déjà un cri de la société, en fait, pour tous ceux qui sont engagés, en fait.
C'est un peu ce que vous faites dans ce dernier album, DNA, ADN du coup en français. Vous évoquez un petit peu tout ce qui ne va pas au Brésil, mais quand même il y a certaines choses qui vont aussi.
Bien sûr qu'il y a plein de choses qui vont dans son pays. Déjà le courage de ce peuple de vivre dans un pays qui s'appelle le Brésil. Tu sais, quand on est brésilien, le Brésil c'est pas pour n'importe qui. Hein. Il faut quand même être très fort pour grandir dans ce pays. Quand tu ne corresponds pas aux stéréotypes de la politique d'aujourd'hui, c'est-à-dire si t'es pas blanc, si t'es pas riche, si t'es pas beau, c'est pas bon, donc c'est compliqué au pays.
Comment vous diriez que ces origines brésiliennes, elles influent sur ce que vous faites?
Ah bah parce que je suis née là-dedans, donc c'est normal. Je suis née à Rio de Janeiro, j'ai grandi entre le Nord-Est, qui a une culture très différente par rapport à celle du Sud, des parents métissés, donc toute ma musique, c'est l'histoire de ma vie. J'ai passé par une trentaine de groupes avant de commencer à écrire mes premières chansons. J'ai fait plus de 10 ans de musique, 12 ans de musique avant de prendre la guitare pour la première fois. Donc j'ai appris la musique dans la rue, avec les groupes, avec les gens lesquels je croisais, qui m'embauchaient à l'époque.
C'était comment de grandir au Brésil ?
c'était différent, c'était... C'est courageux de grandir au Brésil quand je pense. Déjà hier, j'étais avec des jeunes ados de 14 ans qui sont à l'école, qui ont une vie complètement détendue par rapport, bien sûr, voilà, à leur vie. Ils ont l'école et ils ont leurs activités, etc. Ils sont super bien sapés, c'est super mignon. Et quand je pense à mon scolarité, l'escolarité de mes collègues, à 14 ans, on travaille déjà. On a déjà un boulot pour essayer d'aider à la famille. On étudie le soir, on bosse dans la journée. On a mis les responsabilités. Il y a même des copines qui sont déjà enceintes à 14 ans, qui sont déjà mamans. Donc voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Le Brésil, c'est un pays très fort avec des gens très courageux. Et que c'est pas pour tout le monde.
Et est-ce que le fait d'être artiste aujourd'hui, ça vous sert pour expliquer ça aussi peut-être aux jeunes Français ou à tout le monde en fait, que c'est pas la vie, c'est pas toujours hyper évident.
Je pense que ce qu'on a de plus fort là-bas au pays, ça c'est également avec tous les pays qui ont ce genre d'économie, là, ce genre de société comme la mienne, c'est que voilà, ce qui nous reste dans la vie, c'est ça, c'est le courage, c'est la musique, c'est la nature, on s'attache à ce genre de choses. Donc, on est bien sûr qu'on a tout ce côté capitaliste parce qu'il y a la télé qui met tout ça dans la gueule, on veut tous des baskets, on veut tous être sapés comme tout le monde. Mais on est quand même très content d'avoir de l'eau, une douche, un lit pour se coucher, d'avoir à manger. Donc, je pense que ce genre de choses-là, dans une vie, dans la longueur d'une vie, tout devient plus cool, en fait.
Il me semble que votre maman était maquilleuse dans les cabarets.
Tout à fait.
Ça vient de là aussi, votre passion pour la musique, l'art?
Ah, sûrement, parce que j'étais une enfant dans les cabarets. Maman maquillée, les artistes et tout, ils rentraient, ils changeaient, les plumes, les paillettes. Moi, j'étais toute petite, j'ai regardé tout ça, j'ai kiffé, j'étais un peu le bibelot de l'équipe, quoi. Mais à l'époque, je chantais pas, je pensais même pas, j'étais un enfant.
Et du coup, vous savez ce que le déclic, quand est-ce qu'il est venu?
En fait, j'ai répondu à une annonce d'un casting qui cherchait une chanteuse dans un journal du Brésil. J'en avais un peu marre de l'école. Et comme j'avais grandi une partie de ma vie avec ma mère qui était dans ce monde des paillettes, etc. Après, papa, c'était beaucoup plus dur. Je me disais, bon, il faut que j'essaie de m'en sortir parce que je ne peux pas vivre dans un monde comme ça, école, maison, maison, école. Et j'ai répondu à cette annonce. J'ai chanté comme ça à la maison, comme tous les enfants au pays. Et les gars, ils ont dit, vas-y, j'avais des yeux comme ça, j'ai dit, s'il vous plaît, embauchez-moi, j'ai envie de chanter. Ils m'ont accepté et depuis, je n'ai plus jamais arrêté.
Et donc, cette carrière vous amène en France en 2006. Est-ce que vous regardez le monde culturel français de la même manière que vous regardez le monde culturel brésilien?
Mais non, là, c'est un autre monde que s'est ouvert à moi. Déjà, le monde de l'accessibilité à la culture, parce que... C'est tout nouveau au pays aussi que les gens ils commencent à aller dans les musées, il y a encore, ils voient les expos, il y a encore, c'est quelque chose qui n'est pas simple, ça coûte cher. Nous n'avons pas accès à toutes ces grandes œuvres d'art. Et pareil pour les livres, et en fait, ça s'apprend, en fait, la lecture, apprécier un tableau, tout ça, j'ai appris ici, j'avais faim de ça au Brésil, mais on n'avait pas les moyens. Et donc, quand je suis arrivée ici, c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi, dont les livres, les tableaux, les artistes, et pouvoir aussi être dans des lieux où les gens, ils étaient acteurs, tu vas dans le sud, tu peux voir la maison de Picasso, et là, t'as envie encore d'apprendre des choses, et en fait, c'est ça qui m'intéressait vraiment dans ce voyage de venir ici. J'avais faim d'apprendre, de lire, et plus j'apprends, plus j'ai envie de faire.
Est-ce que donc cette arrivée en France, ça a influé aussi sur votre création? Ça a changé des choses?
Ça a changé toute ma façon de vivre, même ce qui m'a... Ma transition capillaire, parce que même ça, au pays, il y a plus de 10 ans, toutes les femmes étaient obligées d'avoir les cheveux lisses. Parce que quand on a la peau plus claire, même si t'as un père noir, une mère blanche, peu importe, on dit souvent qu'il vaut mieux lisser les cheveux parce que comme ça, on est un peu passe-partout. Et ça, quand je suis venue ici et que j'ai commencé à vraiment rentrer en contact avec l'Afrique et mon ancestralité et les pays d'Orient et tout ce qui a construit le Brésil plus tard, c'est là où j'ai commencé à voir vraiment d'où je venais, d'où venaient mes racines et de laisser mes cheveux naturels comme comme je dois être, en fait. Donc, j'ai grandi autant que femme, autant qu'être humain, en apprenant plus sur mon pays, sur ma culture, et c'est là que je commençais à faire ma musique.
Alors, tout à l'heure, on l'a un petit peu évoqué, mais le racisme, du coup, c'est quelque chose qui est très présent au Brésil ?
C'est quelque chose qui est malheureusement très présent, ouais, entre le racisme social et le racisme de couleur. Bien sûr, on ne peut pas du tout fermer les yeux au racisme qui existe au pays. Après, ce n'est pas du tout le même racisme qu'il y a aux États-Unis. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais si, c'est une vérité. La majorité des gens qui sont en prison sont de couleur noire, de métis de peau. Et les minorités, ce sont les noirs, les métis, les pardes qu'on appelle. C'est une vérité, il y a très très peu de représentativité au cinéma, à la télé, etc.
Ok, donc la France, l'arrivée en France, c'était quand même une ouverture sur la liberté, quoi, de nouvelles choses.
Bien sûr, bah, déjà en tant que femme, en tant qu'être humain, de reconnaître mon ADN et de voir d'où est parti, en fait. C'était ça le but de venir ici en Europe, parce que les caravelles, les bateaux sont partis d'ici pour aller voir ce qui se passait là-bas. Donc, et après, tout le monde est venu, les Turcs, les Libanais, les Marocains, les Européens, les pays de l'Est, qui ont créé ce qui est le Brésil aujourd'hui. Donc, mon idée, c'était comment nous sommes arrivés là, parce qu'il y a une culture brésilienne qui est très, très forte. Qui est né des cultures en culture, juste pour créer la nôtre, mais le point de départ, il y a quand même de l'Afrique d'ici du continent.
Et la multiculturalité, ça c'est quelque chose auquel vous êtes très attachée.
Il y en a partout, au Brésil, du nord à sud, la musique change, l'accent change, la façon de marcher, de manger, tout change. En à peine 600-700 kilomètres, donc il faut voir que le pays, c'est quand même 8000 kilomètres de côte, donc 250 millions de personnes. Et on parle tous la même langue.
Et on sent ça dans votre musique aussi.
Et ouais. C'est ça, bah ouais, c'est ma vie, quoi. Je suis née à Rio, où il y a la samba, le pagode, le baile funk, le rap, la culture underground. Le Nord-Est, il y a le reggae, le foro, le jongo, le shot. Voilà, je suis une osmose de ces choses-là.
Je vous le précisais en intro, cette interview a été enregistrée lors de la venue de Flavia Coelho au Café Musique. Et c'est justement grâce à la loge dans laquelle nous nous trouvions que nous avons ce délicieux effet d'écho sur nos mots. Ceci étant dit, laissez-moi vous rappeler que l'artiste brésilienne était en nos montoises contrées le 23 novembre dernier. Et c'est là que les plus féministes d'entre vous s'exclament « Ah oui !» le jour de la marche contre les violences sexistes et sexuelles organisée par nous toutes. Tout juste. On en a donc forcément discuté.
Alors aujourd'hui, Flavia, on est le 23 novembre. J'imagine que vous êtes au courant, mais à Paris, il y a une grande marche qui est organisée par le collectif Nous Toutes. Et ça, c'est des sujets aussi qui vous touchent ?
Bien sûr. Ouais, plus que jamais. Tous les jours, au moins dans tous mes disques, c'est un sujet que je me sens dans l'obligation de parler. Pas seulement parce que je suis une femme, parce que je suis un être humain. Et que je pense que le discours de ce qu'on appelle le discours ou le droit des femmes, il ne doit être pas parlé que pour les femmes, il doit être parlé pour tout le monde. Je pense qu'à partir du moment où les hommes s'y mettront aussi, il y aura moins de violence, il y aura moins de stigmatisation, il y aura moins de séparation. Je pense que, encore la semaine dernière, il y a une journée où nous avons toutes travaillé gratuitement. Nous sommes encore dans des chiffres qui sont très élevés et là on parle de la France à niveau des féminicides, donc c'est-à-dire dans une société qui est quand même assez éduquée, une société qui a vu la naissance de Simone de Beauvoir, etc. Donc d'ailleurs c'est un livre que je recommande à tout le monde, que je relis à nouveau.
Le deuxième sexe,
voilà, qui est complètement de l'actualité. Je suis au début de quelques pages, et c'est un bouquin qui était écrit, je sais pas, dans les années 50, et on est en 2019, et c'est représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ouais, il faut tous les jours en parler un petit peu, se rassembler, et il faut qu'on y pense à ces femmes qui sont ici, celles qui sont ailleurs aussi, qui n'ont même pas le droit de marcher dans la rue.
Parce qu'au Brésil, c'est quoi aujourd'hui la situation pour les femmes?
Ah bah, les femmes, elles sont très très fortes, très réunies au Brésil, très rassemblées, bien sûr. Mais vous savez, le pays a encore beaucoup de chemin à faire, parce que quand même on est écrasé par un patriarcat qui est ancestral. et qui est très ancrée. Donc nous sommes, même quand nous sommes en plein essor de parler du féminisme, de l'ouverture, de la libération de la parole des femmes, on peut aussi se trouver en train de dire des choses qui ne sont pas bien parce que ce patriarcat, il est vraiment beaucoup trop ancré. Vous imaginez, une des dernières déclarations de la ministre de la famille du pays qui a dit que les garçons doivent mettre du bleu et les filles doivent mettre du rose dans un moment où on est en train d'enfin libérer la parole du genre. En 2018, une déclaration pareille, c'est quand même... Voilà, il y a beaucoup à faire encore.
Surtout que ça, c'est quand même un des premiers combats qu'on a de dire... non,
voilà, attendez,
cette différence de genre.
Beaucoup à faire, beaucoup à faire.
Votre première idée, comme ça, pour faire avancer les choses, ce serait quoi?
Déjà qu'on discute. Il faut qu'on discute à la maison, avec les enfants. J'ai l'impression que cette génération-là, cette petite génération, les milléniums, ceux qui sont nés en 2000, ils vont avoir une tête beaucoup plus détendue que la nôtre, parce que nous avons encore grandi. Moi, par exemple, j'étais vraiment dans des discours vraiment très machistes, très misogynes, les femmes envers les femmes. C'est ça encore qui est plus dur, qui est encore de l'actu. Donc, je fais encore partie de cette génération où les femmes ont beaucoup de mal à voir la libération de la parole d'une autre femme. Nous avons vu ça dans MeToo ici en France, comment ça se passait. Voilà, il y a eu celles qui ont écrit pour MeToo et celles qui ont écrit contre MeToo. Donc, quand on est dans une société qui est censée d'être avancée et qu'on a encore ce genre de... C'est-à-dire que ce qu'a dit Simone de Beauvoir, que les femmes, elles sont sensibles à leur communauté, à elles, elles ne sont pas toutes encore ensemble. On n'est pas encore toutes vraiment ensemble. Donc, c'est ça, il faut qu'on aille discuter de ça. Et avec la femme qui vient du continent africain, parce qu'elle a grandi dans un environnement, et la femme qui vit à Paris 16e, parce qu'elle aussi, elle se fait taper par d'autres motifs, par d'autres raisons, là aussi se faire harceler par d'autres raisons, par la femme qui est voilée, qui ne fait pas peut-être se taper ou pas non plus. Ça, c'est complètement une stigmatisation de ce que c'est la femme voilée. Il faut pas aller là-dedans. Il faut lui donner la parole aussi, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas, ils se font taper. Donc, il y a un tas de choses, en fait, qu'il faut qu'on discute. Les femmes indiennes aussi, qui sont ici. Vous savez, chaque pays amène sa culture avec lui. Nous sommes dans un pays qui est une terre d'accueil, que je crois beaucoup. Et je pense que partout dans le monde, il faut qu'on discute, nous, entre femmes, nous, entre nous, pour comprendre chacune, pour pouvoir défendre nos valeurs ensemble.
En fait, c'est cette sororité dont on parle de plus en plus qu'il faut vraiment mettre en place, parce que la fraternité des hommes qui clame depuis des années, c'est
elle
le
existe.
Patriarcat qui nous domine un petit peu.
Ils sont beaucoup plus, fraternels entre eux que nous-mêmes, ça c'est sûr. Les femmes, parfois, entre nous... Il suffit qu'il... Parfois, c'est une histoire d'habits. Mais à nouveau, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de culture. L'empathie, pour moi, c'est le mot-clé de ce que j'ai écrit dans mon disque DNA et de ce que j'essaie d'utiliser dans ma vie de tous les jours. Parce que l'empathie, c'est vraiment le réflexe de ça. Ça veut dire, viens, on va écouter avant de juger, on va essayer de comprendre. Même si ton discours, ce n'est pas exactement le même que le mien, mais c'est quoi ta blessure qui fait que nous n'ayons pas les mêmes idées. On n'a pas besoin d'être toutes d'accord, hein, c'est pas ça. Mais il y a un sujet clé qu'on doit être d'accord, c'est que nous sommes en train de nous faire tuer depuis des siècles. Et là, c'est un sujet qu'on se rejoint toutes, indifférentes des religions, d'où nous sommes nés, combien nous gagnons, dans quelle classe sociale nous vivons. Nous sommes en train de nous faire tuer. Ça, c'est une vérité, une réalité. Rassemblons-nous les femmes, indépendantes, d'où on vient.
Flavia, généralement, dans l'émission, il y a une pause musicale. Est-ce que vous avez une chanson là, comme ça, que vous voudriez nous faire écouter? Est-ce qu'on écoute un morceau de Flavia Coelho ou autre chose?
Ah tiens, j'aimerais bien. Vous allez voir un truc sur Spotify?
Un peu.
Ouais. Mettez un morceau qui s'appelle Mi Gente, d'un groupe qui s'appelle Fania All Star. C'est le groupe qui a le plus fait danser la salsa dans le monde entier, qui est né à New York, dans les ghettos de New York, et qui a chanté l'immigration cubaine et portoricaine dans ces années 70, et que ça déchire.
MDM. profundo. Lo llamé, vengan conmigo. No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes. Mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme en guaracha, pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a gozar, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí.
Que cante mi gente.
Hay un perito de oriente.
Vous êtes bien sur Radio MDM, toujours à l'écoute de l'épisode 12 consacré à Flavia Coelho. Les femmes de chez moi, deuxième partie, c'est maintenant.
Vous avez fait une tournée en France, vous commencez votre tournée en France. Le sud-ouest, Mont-de-Marsan, les Landes, tout ça. Qu'est-ce que notre coin vous évoque, Flavia ?
La liberté. La liberté, la nature en extrême, la biodiversité, cette liaison que vous avez ici avec votre biodiversité est très forte. Plus je viens ici et plus je rencontre des Landais ailleurs, on voit ça, combien vous avez cette liaison, ça. Et l'importance de voyager partout en France, c'est ça, c'est que le monde ne s'arrête pas aux Champs-Élysées, à la Tour Eiffel et tout ça. Il y a toute une France des campagnes qui est extraordinaire, qui est vraiment là où ça parle chose. Je suis très contente d'être de retour.
Merci. Alors, il y a les trois souvenirs que je vais demander, auxquels je vous ai demandé de réfléchir. Est-ce que vous avez trouvé ces souvenirs ?
Trois souvenirs d'enfance ou de vie ?
Comme vous voulez. Trois souvenirs qui font que vous êtes la Flavia Coelho d'aujourd'hui.
Ok, bon, bah, je vais... Ok, le premier, on va dire, c'est le seau en acier que ma mère a posé sous ma tête quand j'étais très stressée, tout petite à la maison, un peu hyperactive. Parce que j'ai chanté. Et en fait, elle a posé un énorme seau en acier sous ma tête. Elle dit, maintenant tu chantes, tu vas entendre ta voix. Et c'est comme ça que tu vas te calmer. J'ai me promené dans la maison en train de chanter avec un seau qui est verbé. Donc, je pense que c'est le premier contact avec ma voix. Ça a dû être tellement marrant de voir un enfant avec un seau sous la tête. Le deuxième, quand je travaillais avec mon premier groupe de musique, ça c'était quand même assez marrant. C'était un groupe où il y avait Kit Nana, on chantait de la musique traditionnelle brésilienne. Et le troisième, je crois que mon arrivée à Paris, j'avais 200 euros en poche, une petite veste et plein de rêves, je ne parlais pas français. Et je cherchais la sortie, mais je ne savais pas comment on appelait sortie en français. Et déjà, je cherchais la sortie, je me disais, est-ce que je vais m'en sortir alors que je ne trouve même pas la sortie de l'aéroport? Mais bon, aujourd'hui, j'ai réussi la sortie, je suis là.
Donc, vous allez être sortie finalement.
Oui, bah ouais.
Merci beaucoup, Flavia Coelho.
Merci à toi.
Merci à Flavia Coelho pour son temps et ses mots. Merci à Julien, programmateur du Café Musique, qui a facilité la mise en place de cet entretien. Merci à Samuel, Paf et Nico, grâce à qui les femmes de chez moi s'expriment de manière optimale sur nos ondes comme sur le web. Et bien sûr, merci à vous d'écouter les femmes de chez moi.
Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une guerre entre les hommes et les femmes.
We want to end gender inequality.
J'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne l'étaient auparavant.
And to do this.
Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu.
We need everyone involved.
À bientôt chez les femmes de chez moi.